France Inter.
De la Bretagne à l'Occitanie, en passant par le Pays Basque, plusieurs manifestations sont prévues pour protester contre la décision controversée du Conseil constitutionnel de censurer l'enseignement immersif en langue régionale, votée dans le cadre d'une proposition de loi à l'Assemblée des Sages. On censurait cette méthode pratiquée depuis longtemps par des écoles associatives où la majorité des cours se déroulent en langue régionale. Alors à 3 semaines des élections régionales, le sujet est devenu politique. Emmanuel Macron a assuré que rien ne saurait entraver cet enseignement en langue régionale. Il a demandé au gouvernement et au Parlement de trouver les moyens de garantir leur transmission. Des propos rassurants pour beaucoup d'écoles. Tanguy Bocconi s'est rendu à l'école primaire La Bressolle de Prades, qui regroupe 5 classes, 120 élèves âgés de 2 à 10 ans.
À La Bressolle de Prades, tout le monde parle catalan. Une immersion linguistique qui est à la base du fonctionnement de l'école, rappelle Martine Montagné-Sansa, la directrice de l'établissement.
On parle catalan toute la journée. Pour avoir une langue bien parlée, il faut toute l'avoir. Il ne faut pas juste avoir le vocabulaire de classe. Et c'est très très important de partager avec les enfants la cour, le repas, la garderie. Tout le monde participe à la pédagogie parce qu'on apprend une langue et on connaît une langue quand vraiment on la pratique dans tous les moments.
Et visiblement, la méthode porte ses fruits. Niels, 10 ans, passe avec une facilité déconcertante du catalan au français.
C'est difficile d'apprendre le catalan pour toi ?
Non, babé. Ben, à la scola, quand travaillons en catalan et en français, parlons en catalan. En fait, en français, quand on travaille le français, on parle en catalan.
Un bilinguisme qui est également une chance pour le développement des élèves, souligne Eva Bertrana, la directrice générale de la Bressolle.
Au-delà de la récupération de la langue du territoire, évidemment, un enfant bilingue est un enfant ouvert à d'autres cultures, est un enfant ouvert à la diversité.
Des enfants qui viendront renforcer la proportion des locuteurs catalan dans notre département. Selon une étude de l'Université de Perpignan, un tiers des habitants des Pyrénées-Orientales parlent déjà le catalan.
Le dossier du Covid à présent, Laurence, avec les entrées à l'hôpital qui continuent de diminuer en France.
Le reflux de la pandémie se poursuit avec seulement 539 admissions ces dernières 24 heures. Concernant la vaccination, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert à la vaccination des 12-15 ans avec le Pfizer. Des jeunes de 4e et de 3e qui, jusque-là dans 15 départements les plus touchés par le virus, suivaient les cours en demi-jauge, eh bien ils pourront tous se retrouver en classe dès lundi. Les élèves ont le sourire. Exemple au collège Roger Vercel au Mans avec ce reportage d'Alice Marot.
Inès, élève en 3e, est soulagée de reprendre tous ses cours en présentiel. À un mois du brevet, la pression commence à monter.
On sera plus à jour pour le brevet et ce sera plus simple, je pense que ça rassure quand même. On est sûr d'avoir fait plus qu'en demi-jauge où du coup on ne travaillait pas forcément assez. Les profs ils ne donnaient pas trop de travail donc c'était compliqué. Enfin, on n'aurait pas fini le programme donc là je suis pas sûr qu'on le finisse mais ce sera déjà mieux que si ça continue en demi-jauge.
Moins de travail mais aussi moins de concentration. Seul devant son écran 2 fois par semaine, Corentin a eu du mal à se motiver.
En distanciel, on n'est pas en cours donc les profs ne sont pas là pour nous dire allez travaille ou on te met dans le carnet. Enfin, après, il fallait s'y retrouver quoi.
Une nouvelle que salue aussi Dominique Sommier, le principal du collège. Dans son bureau, il est en pleine réorganisation.
C'est une très bonne nouvelle, en effet, mais tout simplement, ça ne peut pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. L'idée, c'est quand même que tout le monde puisse se retourner pour laisser au personnel le temps de bien se recaler sur les cours, sur les programmes, et puis aussi par rapport à notre cantine, le temps de se retourner, de faire les commandes, de fabriquer, etc. etc. Ils ne peuvent pas nous livrer de repas satisfaisants avant jeudi.
Dans ce collège du Mans, ce n'est donc que jeudi que tous les élèves pourront retrouver leur classe.
Alice Marot. Alors que la création d'un pass sanitaire a été définitivement adoptée au Parlement, beaucoup de Français s'inquiètent de ne pas avoir de QR code sur leur attestation de vaccination. La raison est simple, leur vaccination a été faite avant le 3 mai. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui ne l'ont pas encore. Il est dorénavant possible de récupérer ce code barre sur le site de l'assurance maladie. Yann Gallic.
Ce service en ligne était testé depuis le 20 mai dans 9 départements. Il est désormais accessible sur l'ensemble du territoire. Avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, toutes les personnes vaccinées peuvent aller sur cette plateforme à l'adresse attestation-vaccin.amélie.fr. Pour se connecter, il suffit d'être affilié à un régime d'assurance maladie et d'utiliser par exemple les codes de son compte Amélie ou les identifiants de son espace impôt. Une fois arrivé sur le site, vous pouvez télécharger votre attestation attestation de vaccination certifiée qui comporte un QR code. En flashant ce code-barre avec un smartphone, il sera ensuite possible de télécharger directement une copie de votre attestation dans l'application Tous Anti-Covid. Celles et ceux qui n'ont pas accès à ces outils numériques peuvent récupérer une attestation papier chez leur médecin traitant ou chez le professionnel de santé qui les a vaccinés.
Alors là, pas encore de passe sanitaire, mais il y aura tout de même beaucoup de monde dans la fosse de l'Accord Hôtel Arena à Paris aujourd'hui.
Oui, car c'est le premier concert test en France. 5000 personnes debout devant le groupe Indochine, sans distanciation mais masquées, ainsi que 2500 personnes chez elles. Une expérimentation scientifique pour étudier les conditions de retour des concerts et des festivals debout qui étaient interdits, on le sait, depuis plus d'un an. Et en première partie, eh bien, ce sera le DJ Étienne de Crécy à partir de 17h. Macabre découverte en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Les restes de 215 enfants ont été découverts, enfouis, sur le site d'un ancien pensionnat autochtone. Ces pensionnats où étaient envoyés de force de 1890 jusque dans les années 70, les enfants des communautés. L'enquête commence, mais pour le Canada, c'est une page très douloureuse de son histoire qui se rouvre. À Montréal, notre correspondante Hélène Jouan.
Ce sont des recherches menées à l'aide d'un radar dit « pénétrant » qui ont permis de détecter les ossements de ces 215 enfants, enterrés dans une fosse commune sous un vaste bâtiment de briques rouges à Kamloops, qui abritait jusqu'en 1969 le plus grand des pensionnats indiens du Canada. Certains de ces enfants n'avaient pas plus de 3 ans. Aucune image n'a été diffusée, les fouilles vont commencer afin d'exhumer les corps et de tenter de leur rendre leur identité. À la Chambre des communes à Ottawa, la députée Marilyn Gill ne pouvait cacher son émotion.
Comme blanche géante, comme mère, j'ai mal. J'ai physiquement mal. Il y a des bouts de l'histoire qui sont si noirs, si laids, si sales que nous avons la responsabilité sacrée de nous souvenir.
Au total, ce sont quelque 150 000 enfants autochtones qui ont été enrôlés de force dans ces pensionnats, coupés de leur famille, de leur langue, de leur culture, dans le seul but de les assimiler. Plus de 3 000 y seraient morts de mauvais traitements, d'abus sexuels et de maladies. En 2008, le Canada avait présenté formellement ses excuses au peuple des Premières Nations. Cette tragique découverte le ramène une fois encore à son passé honteux. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Le sport avec cette finale 100% anglaise au Portugal ce soir et devant 16 500 spectateurs. Porto accueille la finale de la Ligue des Champions de football entre Chelsea et Manchester City. 12 000 places au Stade du Dragon ont été réservées aux supporters anglais qui doivent faire le voyage aujourd'hui en charter, en vol charter. Ensuite, patienter dans des fan zones jusqu'à la rencontre, puis rentrer directement chez eux après le match. Mais malgré ces consignes de l'UEFA, des centaines d'anglais sont déjà arrivés sur place et beaucoup entre eux n'ont pas de billets, ce qui ne les empêchera pas de faire la fête, Nicolas Perronnet.
Le gros des troupes est attendu dans la journée, mais depuis plusieurs heures déjà, Porto a un accent anglais. Albion, fan de Chelsea, s'est décidé sur un coup de tête.
Non, je n'ai pas de ticket, je vais tourner autour du stade pour voir si je peux en trouver un, mais avec toutes les restrictions Covid, je n'y crois pas trop. Je suis juste content d'être ici. Le Portugal est une zone verte, on n'a pas besoin de quarantaine, juste le test.
Une zone verte, contrairement à la Turquie en rouge sur la liste des autorités britannique. Voilà pourquoi cette finale prévue à Istanbul a été délocalisée ici. David, lui aussi, ne verra le Stade du Dragon que de l'extérieur, mais ce fan inconditionnel de Manchester City n'aurait manqué ça pour rien au monde.
C'est l'ambiance, je pourrais regarder, c'est au bar en Angleterre, mais c'est pas le même. Ici, on est là, les supporters ils sont là, le match il est là, l'atmosphère, le soleil, la bière.
La bière qui coule déjà à flot sur les terrasses de Porto, ouvertes jusqu'à 22h30. Les 12 000 supporters anglais attendus aujourd'hui et qui auront leur place devront faire vite s'ils veulent en profiter. Leur voyage organisé par les deux clubs va durer moins de 24 heures pour limiter les risques sanitaires.
Nicolas Perronnet.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Ah, et ce ne sera pas le grand bleu pour tout le monde aujourd'hui, hein, Jean-Michel Golinski.
Ah, effectivement, Eric, en raison d'un ciel variable et parfois assez voilé, mais la journée sera quand même assez agréable, avec une ondée probable cet après-midi sur le massif alpin et la montagne au Corse. En revanche, ce matin, l'ambiance est quand même beaucoup plus maussade, de la basse Normandie à la pointe ouest. Et puis, dans le quart sud-ouest, les averses et les orages qui remontent d'Espagne vont progressivement gagner les Pyrénées cet après-midi, et ensuite le massif central. Les températures stables par rapport à hier sur la pointe ouest et dans le quart sud-ouest vont globalement gagner quelques degrés sur les autres régions, mettant ainsi la barre des maximales au niveau de saison dans la moitié nord du pays, des valeurs souvent d'été dans la partie méridionale avec 25 à 27 en général, jusqu'à 28 degrés prévus à Perpignan, à Nîmes et à Marseille.
Jean-Michel Golinski, Météo France.